Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette rencontre qui s'intitule « À la croisée des genres » et qui va nous emmener effectivement à la croisée des genres avec trois auteurs que moi j'adore. Donc je me réjouis de discuter avec vous trois. Bienvenue, merci d'être avec nous. Donc je vous présente hein, Caryl Ferré, Jérémy Fell, Franck Bouys. Merci beaucoup de venir à cette rencontre pour nous parler de vos livres et nous parler de vos univers littéraires. Et on sera véritablement à la croisée des genres parce qu'avec vous, on est dans un monde littéraire qui mélange eh ben, plusieurs genres, puis qui nous emmène dans différents endroits aussi. On va parler de voyage, on va se déplacer, en tout cas mentalement, on va bien rester là avec vous. Mais je me réjouis donc de discuter de ces nouvelles sorties et puis aussi de vos autres livres. Je vais vous présenter chacun brièvement pour pas non plus... monopoliser la parole. Enfin, je commence par vous, Caryl Ferré, qui est à côté de moi. Vous êtes un grand voyageur, hein, j'ai vu. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on n'arrête pas de me dire, mais non, pas du tout. Moi, je prends mes informations sur Internet. Apparemment, Internet ment horriblement. Vous êtes un grand voyageur. Vous avez fait votre premier tour du monde à 20 ans. C'est vrai ou pas?
Moto, même. Ça, c'est vrai, ça.
Ah oui.
Non, pas en moto, non.
Pas en moto. Non. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je vous imaginais sur une Harley. Bon, et vous avez publié, vous avez commencé, j'ai vu, 1994. Hein, ça fait longtemps que vous écrivez.
Ouais, mais là, c'était vraiment au bistrot, quoi. J'ai au bistrot parce qu'en fait, j'ai envoyé des manuscrits à tout le monde et j'avais toujours des réponses ne rentrent pas dans le cadre de nos publications.
Ah, oui,
à croiser de rien du tout, surtout, quoi. Et puis un jour, il y a un éditeur qui m'envoie une lettre manuscrite en disant « Ah, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin du compte ». Et moi, j'étais barman à Rennes à ce moment-là. Et au bar, il y a un copain qui arrive et je lui dis ça. Il me dit « Ah, mais moi, je bosse dans l'icono, donc moi, je sais construire des livres, en fait. Ben, je vais monter une maison d'édition et puis ce sera mon premier livre, ce sera le tien. » Je dis « Ben, tu veux peut-être le lire quand même, d'abord ?» Et il me dit « Ouais, non, mais s'il y a un éditeur parisien qui a dit que c'était bien, enfin, c'était pas loin, on va lire deux, trois trucs et puis voilà, quoi. » Donc du coup, ça s'est fait n'importe comment, enfin au bistrot, donc en l'occurrence.
C'est pas forcément n'importe comment. Hein.
Ouais, un petit peu quand même, hein, parce qu'on avait servi quand même quelques verres hein, pour motiver un peu les troupes. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Il y avait trois points de vente, hein, deux à Rennes et un pote à Lumière Vagabonde à Paris. Bon, c'était pas une diffusion extraordinaire non plus, quoi. Et le quatrième point de vente, c'était le bistrot où j'étais. Et je dois dire que c'était le plus grand libraire du coin, vraiment.
Comme quoi,
voilà, c'est pas... Donc maintenant, je m'en sers pour caler des trucs.
Ah oui, peut-être qu'à la croisée des genres, en fait, il y a un bistrot.
Bah, des fois, je vois ça sur Internet. Excuse-moi, je parle trop. Hein. Mais je vois ça sur Internet. Ça s'appelait « Avec un ange sur les yeux ». Ne l'achetez pas, hein, parce que franchement. Mais des fois, je vois ça 80 balles et tout. Je dis « Ah bah, putain, merde ».
Bah, achetez-le. Bah, achetez-le, non, c'est collector.
Bah, si vous voulez caler un truc chez vous.
Vous avez ensuite vous avez emmené en voyage avec vos livres hein, l'Afrique du Sud avec Zulu, l'Argentine avec Mapuche, Condor hein, c'était au Chili, LED c'était en Sibérie et puis là avec Okavango on est en Namibie, c'est votre dernier livre donc à la série noire et ça se passe au cœur du Kaza, K-A-Z-A qui est une zone de conservation de la faune sauvage de 80 000 m² qui se trouve en fait en Namibie. Et dans ce roman, moi je vais les résumer brièvement pour qu'on sache un peu de quoi on parle, ça se passe dans une réserve naturelle qui s'appelle le Wild Bunch et un meurtre est commis en fait dans cette réserve naturelle et plusieurs personnages vont essayer de comprendre qui tue et pourquoi dans cet endroit qui est finalement un endroit où sont commis aussi des crimes quand même de masse assez sidérants qui sont les crimes des animaux puisque la faune sauvage est traquée, braconnée, poursuivie, enfin voilà, et tuée de mille façons extrêmement inventives et horribles qui sont que vous dénoncez dans ce livre hein, vraiment. Et donc on va suivre plusieurs personnages. Il y a John Latham et son adjoint Encon, ça c'est un employé Encon qui sont les propriétaires, enfin John est le propriétaire de Wild Bunch. Et puis, il y a une ranger que j'ai adorée, Solana, qui va aussi se lancer sur les traces des tueurs. Et on va se retrouver dans cette mafia horrible qui est celle du trafic d'animaux et du braconnage d'animaux sauvages en Afrique. Donc, évidemment, un roman absolument passionnant et terrible à lire aussi, parce qu'il nous révèle des choses quand même sur la marche du monde qui sont assez effroyables. Jérémy Fell, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous publiez, vous, depuis 2015, c'est plus récent. Hein. C'était Les loups à leur porte chez Rivage, qui était un roman qui nous avait tous mis quand même un bon coup sur la tête, roman tortueux, noir, qui nous emmenait aux États-Unis, qui commençait par un crime assez horrible dans le Kansas. Hein, c'était et puis c'est, vous avez poursuivi dans cette veine américaine avec Elena en 2018, donc aussi un roman à la croisée des genres, hein, parce qu'on est dans la noirceur quand même la plus totale, et en même temps, on va en parler, mais il y a quand même pas mal d'éclats de lumière. Vous avez publié ensuite, c'était 2021, Nous sommes les chasseurs, qui est là un roman tentaculaire qui frôle et qui même s'invite, qui plonge dans la veine horrifique et fantastique. Et puis, Malgré toute ma rage, c'est votre dernier livre, toujours chez Rivage, qui lui raconte l'histoire de quatre amies qui sont mineures, hein, qui sont des jeunes filles qui partent avec la bénédiction de leurs parents en Afrique du Sud et toute seule, en fait. Et puis, il va arriver quelque chose d'assez atroce à l'une d'entre elles. C'est la scène d'ouverture du roman, donc je ne spoile rien. Elle est assassinée de manière extrêmement vicieuse. Et puis, on va découvrir au fil de cette histoire qu'est-ce qui a pu arriver à cette jeune fille et le lien qui unit notamment deux cousines qui sont Manon et Thaïs. Voilà. Et ces deux cousines-là, en fait, leur vie est à Saint-Germain-des-Prés et beaucoup de passages du roman, qui est un roman choral, se passent dans le milieu éditorial à Saint-Germain-des-Prés. Et il y a vraiment un lien qui se crée entre eux, la violence de cette Afrique du Sud où il y a aussi une vraie criminalité et où se passent des choses, c'est un endroit dangereux, il se passe des choses terribles et une violence aussi qui est l'héritage de la violence coloniale, et puis la violence, bon, il y a une violence qui n'est pas forcément celle du milieu littéraire. Vous avez aussi, il y a un criminel que moi j'ai jamais rencontré à Saint-Germain-des-Prés, j'espère ne jamais le croiser, mais en tout cas il y a aussi la violence du milieu littéraire qui est racontée, décrite dans ce roman. Et puis Franck Bouys, merci d'être avec nous, bienvenue. Vous êtes un enfant du pays, hein, ici en voilà, Brive, vous êtes sur vos terres. Vous avez commencé à publier aussi, quand même, j'ai vu 2007, je ne sais pas si c'est exactement 2007, mais moi j'avais lu L'entomologiste parce que vous me l'avez offert. C'était votre premier roman, non?
Oui, oui.
Et je l'avais lu, il était très bien. Écrit dans un bistrot, comme quoi, voilà, à la croisée des genres, il y a un bar. Il faut le savoir. Et puis, vous avez finalement, c'est Grossir le ciel, hein, qui vous a amené qui vous a mis dans la lumière, qui est un roman fascinant, un dialogue entre deux personnages. Je vois des têtes qui se hoche là dans le public et qu'on peut trouver au livre de poche et qu'il faut absolument lire si on ne l'a pas encore lu. Ensuite, il y a eu Plateau, il y a eu Glaise, Né d'aucune femme, qui a aussi été un immense succès, je m'en rappelle encore, des posters dans le métro. Et puis Buveur de vent, Fenêtre sur terre et L'homme peuplé, qui sont trois très beaux romans qui sont parus ces dernières années, signés de votre plume. Et là, c'est Pur sang qui ressort, que vous avez réécrit, qui avait été publié une première fois en 2014 et qui revient aux éditions Phébus et qui est un roman magnifique aussi. Alors, je raconte, hein, c'est l'histoire d'Elias, qui est un homme qui est né dans le Montana, à Eden Creek, qui a été élevé par un couple d'Amérindiens qui n'étaient pas ses parents, qui, eux, étaient de la tribu originelle des Nez Percés. Vous nous racontez d'ailleurs aussi l'histoire des Nez Percés, donc on remonte dans le temps. Et moi, au début, j'ai cru que Elias, c'était aussi dans le passé. Et puis, quand il commence à prendre l'avion, je me suis dit, ah ben, il prend la... Ah, ok. Bon, on est en fait dans le présent. Mais vous jouez très bien avec les temporalités, les époques. Et donc, lui, en fait, n'a plus ses parents biologiques. On lui dit qu'ils sont morts d'une maladie, puis il va découvrir en fait assez tôt dans le roman que ses parents finalement ont disparu dans d'autres circonstances, qu'en fait ils étaient français. Et cet homme qui n'est jamais sorti du Montana va se rendre en France et rencontrer un Écossais dans le village d'origine de ses parents qui va l'aider à faire la lumière sur l'histoire assez terrible aussi, hein, de sa famille et de ses origines. Voilà pour les résumés des romans. Je vais me taire maintenant et laisser parler les invités. D'abord, première question que j'avais envie de vous poser à tous les trois. On est à la croisée des genres, certes, mais on est aussi quand même à la croisée des mondes et à la croisée des lieux. J'aimerais savoir comment est-ce que vous voyagez. Je vous pose cette question parce que je sais que vous avez chacun une façon différente de voyager. Caryl Ferrand en a parlé. Vous déplacez dans les endroits. Jérémy Fell, vous, et j'avais adoré ça pour l'Amérique, vous n'êtes pas allé aux États-Unis avant d'écrire sur les États-Unis. Et vous rendez, et c'est pareil pour l'Afrique du Sud, vous n'y êtes pas allé, mais vous rendez un portrait très fidèle et en même temps très imbibé de l'image qu'on en a, de l'image fictionnelle qu'on a de ces endroits-là. Et puis vous, Franck Bouys, je sais que vous êtes un grand amateur de littérature américaine, ça se sent quand on vous lit, et je ne sais pas vous, comment vous voyagez, je ne sais pas si vous allez dans les endroits ou pas. Donc je commence par vous pour avoir une surprise, voilà.
Bonjour. Plein de points communs avec Caryl. Moi j'ai fait le tour pour la première fois à 20 ans, mais le tour de mon village. Donc c'est un bon début. Non, moi je crois que je suis un voyageur immobile, un peu Darrell Standing de Jack London. Et même si voilà, j'aime bien voyager de temps en temps, mais c'est assez introspectif tout ça. Les États-Unis, j'y suis allé depuis, mais je l'ai tellement fantasmé avec la littérature que ça a fait corps en fait. Il y a un truc comme ça. Vous savez, il y a des romanciers, des artistes, enfin peintres, etc. Vous sentez que vous êtes de la famille, quoi. Il y a un truc comme ça puissant qui se passe, quoi. Et quand je suis arrivé chez les sudistes du début du XXe siècle, fin XIXe, je me suis dit, ils me parlent, quoi. Ces gens qui ont tous perdu. Enfin, tous les grands romanciers se trouvent là, quoi, à cette époque-là. Ils ont perdu la guerre de sécession. Donc il y a un truc comme ça qui nourrissait la littérature. J'ai essayé de comprendre à partir de là. Donc ça. Après, il y a tout l'imaginaire, la mythologie américaine, le truc comme ça. Moi, je me souviens, les mardis soirs, tous les mardis, c'était le western de la dernière séance, tout ça. Donc, ça forcément.
Comment ?
Il y en avait deux. Ouais, il y en avait deux. Et Rio Bravo, pour moi, c'est une tragédie grecque.
Oui, donc, vous commencez vraiment votre voyage dans l'imaginaire.
Ouais. Ben oui. Je n'ai pas d'imagination. L'imagination, c'est l'art de recomposer sa mémoire.
et quand vous écrivez Pur Sang pour la première fois en 2014, vous êtes allé là-bas ou pas encore ?
Pas du tout.
Absolument. Et vous y êtes allé entre-temps ?
J'y suis allé entre-temps, ouais, j'y suis allé entre-temps. Mais mes livres, moi, en général, ils naissent d'une révolte, quelque chose qui me, au bout d'un moment, je ne peux plus. Il faut que ça s'exprime. Et une de mes révoltes, c'est le génocide amérindien. Voilà, ça, c'est un truc que je n'ai pas pu régler, moi. Les Américains ont très bien réglé, eux, mais ça, non. Et donc, j'y suis allé, j'ai vu des photos d'Edward Sheriff Curtis, tout ça, et puis j'ai lu beaucoup, j'ai vu les magnifiques documentaires de Ken Burns, tout ça. Et je me suis documenté, et puis un jour, voilà, je me suis dit, je vais sauver quelques Indiens, moi. C'est-à-dire que tous ces Nez-Percés qui se sont fait massacrer à la frontière canadienne, eh ben moi, je vais en sauver quelques-uns dans mon bouquin. Je vais les faire descendre dans le Montana, dans une vallée perdue qui s'appelle Eden Creek. Et puis voilà, ils vont avoir une descendance. Il va y avoir des Noirs américains qui vont se réfugier là, des bannières, tout ce qu'on veut. Mais je vais faire une micro-société là. Et mon petit Elias, avec ses parents adoptifs, ben voilà, je trouve ça. Pourquoi j'aurais pas le droit finalement de sauver quelqu'un ?
Mais oui, pourquoi on n'aurait pas le droit, Jérémy Fell, ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de partir en voyage avec son imagination, comme vous l'avez fait pour les États-Unis et comme vous l'avez fait là pour l'Afrique du Sud ? Et vous, alors comment est-ce que vous procédez ? J'ai l'impression que vous n'avez pas procédé de la même façon, d'ailleurs, pour l'Amérique qui était très imbibée de fiction. Et pour l'Afrique du Sud, où là, quand même, vous êtes dans une documentation, j'ai l'impression, peut-être plus réaliste.
Oui. Alors moi, j'ai vécu... Je voyage très peu. J'ai grandi au Havre, qui est un port ouvert sur l'Amérique. Mon grand-père travaillait sur le France. Donc, je me suis rendu compte que ma fascination des États-Unis venait peut-être de là, d'un côté familial. Après, quand j'ai lu Nostromo de Joseph Conrad, qui raconte la construction d'un pays sud-africain qu'il invente, alors qu'il n'a jamais mis les pieds en Amérique du Sud, j'ai dit sud-africain. Non, sud-américain, ouais. Voilà, ouais, ça c'est la déformation. Le sud-américain me dit, effectivement, par l'imaginaire, on peut arriver à créer l'illusion qu'on connaît l'endroit dont on parle. Et pour les États-Unis, c'était parce qu'on est tous imbibés de culture américaine. Donc moi, quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais besoin de m'évader, moi, dans un espace fictionnel pour raconter des choses qui étaient très personnelles. Et j'avais besoin de la distance que mettait la fiction. Et pour moi, la fiction, c'était avant tout... le fait de placer mes romans au Kansas, dans des pays très marqués, des territoires très marqués américains, avec des références, pour le Kansas, c'était le Magicien d'Oz de Truman Capote. Et donc de jouer avec ça, ça veut dire que évidemment, je ne suis pas un auteur américain, je suis un auteur français qui fantasme aux États-Unis. Donc j'ai voulu créer ce fantasme américain qui, pour moi, était comme un vernis qui me permettait d'avoir une distance par rapport à ce que j'écrivais à ce moment-là. Mais je me rends compte que plus j'écris, plus je me rapproche de la France, parce que mon troisième roman se passe avant tout en Europe. Oui. Celui-là se passe à Paris, le prochain se passe, une grande partie se passe au Havre. J'ai carrément finir par écrire une autofiction, j'ai l'impression, si je continue comme ça. Pour l'Afrique du Sud, je voulais quelque chose de très réaliste. Donc, au départ, je voulais partir au Cap, parce que ça se passe au Cap. J'avais fait la demande de bourse Stendhal que je n'ai pas eue, parce que c'était après le Covid, et ils prenaient avant ceux qui avaient fait la demande pendant la période du Covid. Et je me dis, bon, je n'ai pas changé d'idée parce que c'était très important cet espace-là pour plein de raisons que je ne vais pas dévoiler parce que ça fait partie aussi de l'histoire du livre.
Moi, j'y fais attention.
Voilà, moi, j'essaie de faire attention aussi. Et du coup, là, par contre, même si j'ai lu beaucoup de romans qui se passent en Afrique du Sud, comme les romans d'André Brun, de Neon Meyer, de Coetzee, de Danny Gordimer, je voulais vraiment que la vision que je donnais du Cap était soit la plus réaliste possible. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches que je n'avais pas faite pour les États-Unis, puisque là, c'était vraiment quelque chose qui partait d'un fantasme. Mmh. Voilà. Et donc là, le but était quand même de donner l'illusion que j'y avais été. Donc, quand on me pose l'illusion, mais la question, vous habitez en Afrique du Sud, je dis oui, non, je ne suis pas allé, mais si vous le croyez, tant mieux.
Ouais. Voilà. Mmh. On le croit, moi j'ai cru. Caryl Ferré, alors vous n'êtes pas un voyageur immobile. Vous êtes un voyageur mobile, extra-mobile, qui se déplace, qui enquête sur place avec presque quelque chose du journaliste. Vous avez des fixeurs même. Donc je trouve ça fascinant, moi, d'écrire ces romans comme ça, à partir d'une démarche, tout comme c'est fascinant d'écrire un roman en étant un voyageur immobile, d'ailleurs. Comment est-ce que vous fonctionnez, vous ?
Bah, effectivement, après, on a chacun notre tempérament. Il y a autant de façons de faire qu'il y a d'auteurs. Bon, le fait que j'ai commencé à écrire très jeune donc, et à voyager très jeune, donc pour moi, tout ça, les ensemble, vraiment. Mais moi, j'ai vraiment trop besoin d'être sur place parce que j'ai besoin de contact avec les gens, alors en l'occurrence avec les animaux, mais aussi avec les gens en Namibie. Et parce qu'en fait, même si tu documentes, enfin pour ce qui me concerne, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure façon de faire, mais tu documentes, quand tu arrives sur le pays, tu le connais bien en théorie, on va dire, quoi. Mais en pratique, il se passe toujours des choses complètement différentes. Je vais vous raconter une anecdote qui pour moi est assez parlante, qui va vous faire bondir un peu, peut-être certains. Et bon, moi, je suis donc traumatisé, mon premier traumatisme, hein, c'est autour du braconnage, donc j'ai toujours été du côté des animaux, comme du côté des Indiens, enfin voilà, tous les opprimés, les animaux sont les premiers opprimés quand t'es petit, en tout cas, quand t'apprends le braconnage. Et donc j'étais avec mon fixeur, qui est une sorte de guide, si vous voulez, et on arrive dans une réserve privée, et j'étais avec ma fille qui est végétarienne. Moi, je suis pas très viandard, enfin j'aime pas trop la viande, quoi. Alors vraiment, exceptionnellement en Argentine, parce qu'elle est très bonne, enfin bon, voilà, je suis pas très viandard. Et on arrive dans cette réserve, et donc c'est en Namibie, hein, donc c'est désertique. Et notre guide, notre fixeur, là, nous dit « Ce soir, il y a la girafe au menu. » On est d'accord. Hein, de la girafe. Mais non, mais en plus, c'est presque l'animal le plus émouvant à voir en liberté, quoi. C'est tellement baroque, cette espèce d'escabeau, là. Enfin, bon,
avec ses longs cils.
Oui, c'est aussi, c'est trop mignon, en fait, quoi. Et puis, plus elles sont jeunes, plus elles sont mimées, en plus, quoi. Donc, alors là, l'idée de manger de la girafe, mais même pas en cauchemar. Enfin, vraiment en cauchemar, en fait, quoi. Donc, je dis, mais c'est quoi ce bordel ? Là, j'arrive directement dans le... C'est quoi, ça ? Je vais défendre les animaux, et tout de suite, on me dit, il y a la girafe à manger. Et puis, il me dit, tu préférais quoi ? Du bœuf ? Moi, je dis, bœuf, mais quitte, pourquoi pas ? Il me dit, tu vois, là, pour faire du bœuf, comme c'est un écosystème qui est fait de sable et de racines et de champignons, donc pour faire du bœuf, il faut de l'eau et de l'herbe. Donc il faut raser tout l'écosystème, donc toute forme de vie dans cet écosystème. Donc tous les animaux qui vivent de ça, ils doivent tous disparaître. Il faut aller chercher de l'eau sous terre pour faire. Donc il faut 10 fois plus d'eau pour un kilo de bœuf que pour n'importe quel animal sauvage. Donc au niveau écologique, c'est totalement une aberration de faire ça. Et ma fille, elle me dit oui, mais bon, moi je préfère manger des patates ou n'importe quoi ou des tomates. Bah ouais, elles viennent d'Afrique du Sud, elles font 2000 km en camion. Donc au niveau écologique, c'est une aberration. Par contre, la girafe, elle est là. Et comme c'est une réserve privée, quand c'est fermé, en fait, le problème, c'est que l'idéal, c'est quand les animaux, ils sont en totale liberté. Mais il y a très peu d'endroits. Il y a un endroit en Namibie qui s'appelle le Kunene, où effectivement, les animaux sont complètement en liberté avec les hommes. Mais du coup, quand tu campes, tu campes au milieu d'eux. Donc évidemment, il y a un lion qui peut arriver la nuit ou une hyène te faire coucou dans ta tente. Bon, c'est un peu flippant, mais c'est le seul moyen en fait de vivre avec. Mais à partir du moment où c'est une réserve qui est fermée, les animaux ils peuvent pas migrer. Donc en fait, comment gérer une réserve, c'est aussi gérer surtout l'acacia, parce que pas que les girafes, mais se nourrissent essentiellement d'acacia. Et du coup, quand il y a une année où il pleut, il y a beaucoup d'acacia. Et comme la nature est bien faite, les girafes elles vont faire 2 bébés dans l'année. Mais si donc super, donc tout va bien, tout tourne bien, pas besoin de manger de girafes. Mais si l'année d'après, c'est sec, l'acacia diminue et il n'y a plus assez à manger d'acacia pour les girafes. Donc, du coup, elles vont mourir de faim. Et pour ne pas mourir de faim, tu en prélèves une Donc tu en tues une pour donner à manger à tous les gens qui travaillent dans le truc. Mais du coup, il y a ça à manger le soir. Et c'est hyper bon.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Mon Dieu.
Ah, c'est horrible, hein, vraiment. Au début, j'étais comme vous. Hein. Mais non, c'est pas possible. Et après, tu comprends comment tout fonctionne. Et en fait, comme elle mange, ben, elle mange que de l'acacia, c'est de la viande qui a goût d'acacia. Il n'y a pas un pet de gras. C'est terrible. Hein. Mais bon, ma fille n'a pas mangé quand même. Elle préférait les tomates d'Afrique du Sud.
Ah, bon.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on croit en théorie plein de choses, puis quand tu arrives, la réalité peut complètement te renverser, quoi.
Alors, on est quand même sur une thématique à la croisée des genres. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des genres, justement, des genres littéraires. On a deux auteurs ici qui sont publiés en blanche. Hein, Franck Bouisset, Jérémy Fell, vous êtes dans des collections blanches. Et puis, Caryl Ferré, vous êtes en série noire chez Gallimard, donc vraiment dans du polar. Mais en même temps, on peut forcément tous vous inviter sur une table ronde polar, une table ronde roman noir, une table ronde blanche, une table ronde écolo. Enfin, on peut vraiment vous caser un petit peu partout. Et quand on lit, on peut recevoir énormément d'émotions différentes. On est autant dans la lumière que dans l'ombre, que dans la prise de position sociale ou la défense des opprimés, etc. Moi, je trouve ça fascinant. Franck Bouisset, est-ce que vous disiez tout à l'heure que finalement, vous écrivez des romans de la colère, des romans quand ça déborde, quand il y a une forme de révolte qui pointe son nez. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes un grand amateur de la littérature américaine, ou aux États-Unis, se pose beaucoup moins la question du genre que nous, quand même, hein. Nous, on est vraiment un petit peu obsessionnels autour de ça. La noire, la blanche, les libraires sont un peu arc-boutés, les éditeurs aussi. Est-ce que vous avez envie, finalement, de défendre et de réclamer une littérature de la révolte, tout simplement, qui dépasse un peu ces cases de blanche et de noir.
Enfin, moi, je réclame juste la liberté auquel on a droit quand on écrit, quoi. Et on est tous des écrivains transgenres, hein, tous les trois, finalement. Ouais. Moi, avec ma culture autodidacte totale, on m'a jamais parlé de genre quand j'étais gamin et que je lisais Bob Moran en même temps que Jules Verne ou Conrad ou Melville, je m'en tapais complètement, ou Mallarmé. Et donc tout ça, ça fait justement, c'est ça qui fait une patte singulière, qui fait un grain de voix particulier. C'est pas l'académisme, etc., le formatage qui fait certainement un bon livre, mais trop en équilibre. Moi, je revendique le déséquilibre permanent, autant dans l'écriture que dans les thèmes, etc. Et donc moi, je me moque mais totalement de la notion de genre. Alors pour preuve, moi, mon premier bouquin j'avais trouvé un éditeur parisien moi aussi à l'époque. C'était Grossir le ciel. Ah ben, Grossir le ciel, prix SNCF du polar.
Voilà.
Il y a pas un flic, pas une énigme policière, deux types dans les Cévennes,
un chien,
la neige. Ah ben voilà, prix SNCF du polar, prix Michel Lebrun, etc. Et je me suis dit, ben ouais, mais ces lecteurs là de polar, c'est très codifié quand même le polar normalement. Pour preuve que pas forcément. Mais je me suis dit, ben, ils sont curieux. Ouais, ils s'en foutent aussi des genres. Quelle importance. Donc le plaisir de la lecture ou le plaisir de l'écriture, c'est quelque chose. Moi, il y a ce truc là, cette anecdote formidable là, de c'était Yourcenar qui se trouve en dédicace et le lecteur lui dit, ah, ben, je m'attendais pas à ça. Mais comment vous pouvez vous attendre à quelque chose quand vous entrez dans la lecture d'un bouquin, quoi. Moi, quand je commence un livre, mais je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je vais raconter, et j'ai envie de me surprendre. Voilà. Et donc, oui, moi, je continuerai toujours comme ça jusqu'au bout. J'ai pas envie de penser au lecteur quand j'écris. Je suis dans le doute permanent. Je sais pas vous, mais moi, ça m'habite jusqu'au bout. Hein. C'est un truc qui me demande une énergie considérable. Et même quand c'est fini, je me dis, mais oh, c'est terminé. C'est terminé, là, t'es sûr que c'est terminé? Tu devrais peut-être refaire une lecture. Non, c'est terminé. Parce que physiquement, je peux plus. C'est terminé.
Et il faut résister, justement, contre ce, peut-être, j'imagine, hein, ce désir... très franco-français, très Saint-Germain des prés-ex.
C'est où ça?
Je sais c'est pas, Namibie, Germano Pratin, merci.
C'est une réserve parisienne, ça, c'est ça?
Oui, c'est une réserve parisienne. On peut pas manger de girafe, mais enfin, on mange quand même quelques personnes. Est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'il faut lutter? Jérémy Fell, est-ce que vous, par exemple, cette question se pose, parce que vous écrivez, finalement, là, Malgré toute ma rage, on le lit comme un thriller. Il y a une trame vraiment criminelle, avec une enquête, avec des révélations, etc. Est-ce que vous avez à cœur de rester dans un style, ou est-ce que au contraire vous dites moi j'ai ma liberté d'écrire, j'écris ce que je veux, et puis après l'éditeur prend le livre et puis il vit sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez?
Ah oui, non, moi je réfléchis absolument pas au genre dans lequel pourrait s'enfermer ce que j'écris, puisque justement j'essaie d'écrire des romans qui ne s'enferment pas dans un genre. Le terme transgenre me va tout à fait. Quand on me dit quel genre vous écrivez, je dis transgenre ou transfiction. C'était Francis Berthelot qui avait publié un livre qui s'appelait sur les transfictions, ces romans qui naviguent entre littérature blanche et littérature de l'imaginaire, qui jouent avec les codes de certaines littératures sans s'enfermer dans un genre en particulier. Moi, ce que j'aime, c'est... Évidemment, moi, je ne pense pas non plus au lecteur quand j'écris. Je ne me dis pas je vais écrire un thriller, je vais écrire un roman noir. J'essaie de... Moi, c'est les personnages qui sont les plus importants. Je crée les personnages, après je suis les personnages, et après je laisse le roman m'emporter quelque part aussi. J'aime bien être le premier lecteur de ce que j'écris. J'ai toujours la phrase de Stephen King qui disait que pour qu'un lecteur n'ait pas d'avance sur l'intrigue, il faut que l'auteur non plus. Donc j'aime bien ne pas trop savoir où je vais, j'aime bien me laisser cette liberté-là d'être surpris par ce que j'écris, si moi je suis surpris par ce que j'écris, les lecteurs aussi. Et par exemple, dans Nous sommes les chasseurs, qui est vraiment le roman que j'ai écrit qui mélange le plus les genres, je voulais que le lecteur rentre dans le livre en disant « tout peut arriver ». Voilà, tout peut arriver. Et j'aime bien aussi que le lecteur se dise « je pensais qu'on irait justement dans cette situation-là, finalement je bifurque autre part ». Et le roman est en perpétuelle mutation. Il peut prendre des figures différentes. Après, j'aime ce qu'on appelle les mauvais genres. Donc, tout ce qu'on appelle les mauvais genres en France et qui sont considérés comme des genres mineurs, encore par certains, dans le milieu germano-pratin, justement, beaucoup. Donc l'horreur, le fantastique, le polar, le roman noir. Et voilà, j'aime bien naviguer entre tout ça et créer des livres qui ne sont pas résumables, qu'on ne peut pas facilement ranger dans une case. J'ai toujours du mal, quand je vais en librairie, à voir littérature et à côté roman noir et roman fantastique. Pour moi, il y a tellement de grands auteurs très littéraires en littérature noire. Il y en a deux, je suis entouré de deux auteurs qui, pour moi, sont des grands auteurs de littérature en général. Voilà, et j'aime bien... c'est une dame en bibliothèque qui m'a dit... Je ne sais pas le ranger. Est-ce que je le mets en littérature blanche? Est-ce que je le mets en polar? Est-ce que je le mets en fantastique? Je dis, mettez-le dans chaque rayon. Comme ça, il sera présent. En fait, c'est ça mon dessin. C'était dans tous les rayons possibles d'une librairie. Voilà, je vais y rajouter de la BD aussi un petit peu. Comme ça, je serai partout. Et on occupe encore plus l'espace. Voilà, parce que des librairies où je suis à la fois en polar et en roman français, on va dire. Et je suis dans une collection, évidemment, chez Rivage. Et Rivage Noir est une collection très importante, quasiment mythique. Moi, j'ai envoyé mon manuscrit directement à Émilie Colombani, qui montait sa collection.
Donc, et qui
édite en blanche. Et qui, elle, publie des romans qui sont toujours à la frontière de plusieurs genres. C'est vraiment l'imaginaire qui est. Enfin, c'est avant tout l'imaginaire qui compte. Et c'est vrai que dans les romans d'Émilie, je suis le plus proche des romans de Rivage Noir. Voilà. Mon prochain roman n'est pas du tout du thriller. C'est un roman. Gothique, j'ai du mal, j'aime pas définir mes romans parce que justement j'aime pas les définir. J'aimerais bien inventer une nouvelle.
Faut inventer le roman félinesque.
Ça fait peur, hein. Félesque, ouais, c'est pas mal. Voilà, oui, pourquoi pas.
Caryl Ferré, vous, je vous voyais hocher la tête quand je parlais de cette folie française là qu'on a des deux cases, la noire, la blanche, et puis hop, chacun dans son coin. Vous, chez Gallimard, vous êtes quand même un vendeur. Très important de leur catalogue. Est-ce que, et vous êtes en série noire, donc on vous voit moins dans. Moi, je déplore ça aussi, hein, comme le disait Jérémy Fell. Je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que sur la liste des Goncourt, on n'a pas des romans catégorisés polars, etc. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui parfois vous tracasse?
En fait, il y a plusieurs choses. Hein. Je trouve que c'est très français de mettre des choses dans les cases. Hein. On est cartésien. Vous êtes sans doute traduit aussi à l'étranger, c'est en littérature. Il faut pas cette distinction. Enfin, peut-être pas partout, peut-être dans certains pays, mais enfin, en général, moi, c'est en littérature. Et je trouve ça, c'est ce qu'on dit. Enfin, je trouve ça normal. Parce qu'en fait, le fait de classer, moi, j'entends plein de gens, et je pense que une fois qu'on est classé quelque part, il y a plein de gens qui me disent moi, je lis pas de polar. Par principe, en fait, quoi. Mais plein de gens, plein. Il y en a dans la salle, c'est sûr. Enfin bon, là, vous êtes un peu pris en otage, entre guillemets. C'est un principe, en fait, c'est non, quoi. Alors que vous allez lire, l'autre jour, j'ai lu un bouquin de Carol Oates, c'est hyper sombre, c'est un vrai roman noir, en fait, mais c'est pas du tout classé. Et là, vous allez le lire, parce que c'est étranger, alors ça va, quoi. Et donc, nous, par contre, en français, on est classé dans des trucs, et je trouve ça un peu bête. Après, effectivement, il faut bien classer des livres quelque part. Effectivement, l'idéal, c'est d'être partout, hein. Mais t'es un petit malin, en fait, hein, c'est pour ça. Mais au-delà, donc ça, bon, je trouve ça un peu dommage, mais c'est pas très grave. Moi, j'aime bien le polar parce que je trouve que c'est le type de roman où tu peux tout mettre. Contrairement, alors je dis ça à ceux qui ne lisent pas de polar, souvent, des fois, il y a des histoires qui sont pas mal en blanche, on va dire, en littérature générale, mais il se passe quand même pas grand chose. Et des fois, j'ai dit, mais tu veux pas qu'il se passe un truc ? Je sais pas. Voilà, on va dans une vallée, on voit les animaux parce que nous on est attachés un peu, voilà. Ben moi, les animaux, il se passe un truc, quoi. Alors il y a un mec qui bouffe la girafe ou enfin qui essaie de raconter quelque chose, quoi. Et c'est pas juste contemplatif. Donc moi j'aime bien qu'il se passe, j'aime bien le côté page turner, etc. Même si du coup je m'enlève des lecteurs parce qu'ils ne lisent pas de polar. Moi je n'écoute pas de musique. Ah bon, après j'ai un beau-père qui est complètement con et qui n'écoute pas de musique, hein. Mais peut-être que ça allait ensemble, hein. En fait, hein.
Il lisait pas de polar non plus.
Non, c'est pas de polar non plus, quoi. Mais au-delà de ça, moi, il y a un truc qui m'énerve, grave, c'est que pour le moment, et là, vraiment, vous êtes vraiment témoin de ce qu'il vient de dire, c'est qu'on a la liberté d'écrire ce qu'on veut, en fait, quoi. Et cette liberté-là, eh ben, en Amérique, on ne l'a plus. Parce qu'il y a l'appropriation culturelle qui fait que si tu écris une histoire avec des noirs, il faut que tu sois noir. Si tu sois des Indiens, il faut que tu sois indien, etc. Alors, c'est pour protéger les minorités, très bien. Moi, je passe mon temps à. Je ne protège pas les minorités, mais en fait, à parler minorités, que ce soit des Zoulous, des Mapuche, ouais. des Maoris, etc. Et en fait, normalement, en Amérique, on n'a pas le droit. Et moi, tous mes bouquins, en Amérique, ils sont, c'est mort. Parce que je suis français, de quel droit je parle, même d'animaux, de Namibie, toi, d'Afrique du Sud, ou d'Amérique, tu vois. Et je disais, non, appropriation culturelle. Et donc, c'est un mépris. Je pense que c'est au départ, ça part d'une bonne idée, mais c'est vraiment, pour moi, une pensée totalitaire. Et un jour, je me retrouve en Inde avec un poète aborigène, et genre Malcolm X, en fait. Je me suis fait tailler un short, mais vraiment, parce que j'étais français, je parlais des Maoris. Il était là, c'est lamentable, c'est l'appropriation culturelle et tout. Et c'est la première fois que j'entendais ça, je dis, mais ah bon ? Donc, j'ai pas le droit de parler, alors que moi, je pense qu'on rit, on pleure, on est tous des humains, en fait, hein, et on aime nos enfants tous de la même manière, qu'on soit jaune, vert, blanc, etc. Mais du coup, on essaie de nous enlever, en fait, cette liberté, et je trouve ça grave. Et ce qui était assez marrant, mais j'avais pas, comme j'étais surpris, j'ai pas eu le réflexe de lui dire, parce que ce poète aborigène, donc il était ouais, c'est lamentable et tout, il avait la casquette à l'envers, il avait un baggy, il avait un téléphone portable, et tout, je dis, appropriation culturelle, enlève ton froc, file-moi ton téléphone, ta casquette, et vire ton slip, parce qu'il se trouve, c'est un Calvin Klein, appropriation culturelle, mon vieux.
Comment Caril Ferret déshabille ses confrères, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous préoccupe aussi ? Parce que Franck Buis, Jérémy Fell, d'ailleurs, vous êtes tous les deux mis dans la peau de femme dans certains livres. Vous écrivez aussi sur d'autres cultures. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ? En plus, en France, c'est vrai qu'on commence à parler un petit peu de ces interrogations-là aux États-Unis. Là, maintenant, c'est fichu. Moi, je parlais avec Joyce Maynard, là, qui est chez Philippe Rey. Elle s'est fait refuser un bouquin parce qu'elle raconte l'histoire d'une Américaine qui vit au Guatemala. Ce qui est son cas à elle. Mais on lui a refusé le livre parce que, voilà, faut pas faire ça. Est-ce que ça vous préoccupe ? Est-ce que vous avez peur de voir arriver ça ? Et est-ce que vous vous défendrez jusqu'au bout la liberté de vous glisser dans n'importe quelle peau, tout en bien sûr respectant les minorités pour lesquelles vous plaidez dans vos livres ? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est une question qui s'adresse à vous deux parce que vous êtes tous les trois dans le même cas. Oui, répondez tous les deux.
Oui, ça me préoccupe. Oui, puis c'est non seulement c'est aux États-Unis, mais c'est arrivé. Il n'y a pas très longtemps, je faisais une rencontre dans une médiathèque. Et tout se passait très bien, comme habituellement. Et à la fin de la rencontre, une dame se lève au fond de la salle et une colère a jailli. Elle m'a dit, mais de quel droit vous écrivez sur le viol d'une fille, d'une gamine de 14 ans, etc. Et elle a déversé comme ça toute sa colère. J'ai laissé aller au bout, etc. Et puis après, je lui ai dit, mais de quel droit vous me l'interdisez ? Pourquoi je pourrais pas... Il y avait un journaliste qui m'avait demandé une fois pourquoi vous écrivez. Je lui ai dit pour être un oiseau. Et j'aurais pu dire pour être rose, pour être une gamine de 14 ans, pour être un maître de forge, etc. Et je trouve que c'est une dérive terrible. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté l'histoire de ce poète et romancier turc qui a été condamné. Ses livres ont été retirés de la vente, mis au pilon, parce qu'il y avait un de ses personnages qui parlait de terrorisme. Et donc il lui dit mais c'est pas moi, c'est mon personnage, il faut le condamner, mon personnage, tout de suite, quoi. Je trouve ça assez terrifiant, quoi. Et je pense que c'est une dérive qui va nous atteindre de plus en plus aujourd'hui, et c'est assez terrifiant. Je pense à Timothée de Fombelle avec son Alma, par exemple.
Oui, voilà, en jeunesse. Ouais, qui s'est mis dans la peau d'une esclave noire.
Mais si on peut pas faire ça, nous, que devient la littérature? C'est l'essence même.
Jérémy Fell.
Oui, ça, j'avais entendu un auteur d'autofiction, une autrice d'autofiction, je ne serais pas, qui disait qu'on ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Et moi, je pense que la littérature, c'est souvent l'inverse. Et pour celui-là, j'avais un peu peur, effectivement, en écrivant, parce que je me mets à la première personne, au jeu, dans la peau de trois adolescentes, dont je n'ai pas été une adolescente de 16 ans, une adolescente, tout court. Et aussi, par exemple, d'un policier noir sud-africain. Au départ, il était blanc. Et je me dis, mais tous mes personnages sont blancs. Pourquoi lui serait blanc aussi? Et donc, logiquement, il va être noir. Et justement, grâce à lui, je vais pouvoir parler d'un autre visage de l'Afrique du Sud qui n'est pas celui que ces touristes blanches voient en allant dans des quartiers qui sont pas réservés aux blancs, mais historiquement quand même, qui étaient des quartiers pendant l'apartheid où il n'y avait que des blancs, où les plages étaient interdites aux blancs, et des quartiers ultra sécurisés et très riches. Et à côté, grâce à lui, ça me permettait de parler aussi de la violence qui se déroule tous les jours dans les townships. Et donc j'avais un peu peur qu'on m'accuse d'appropriation culturelle aussi, parce que je me mets dans la peau d'un homme noir et d'adolescente seulement. Je pense que c'est un des devoirs même d'un romancier d'essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est complètement différent de soi. Enfin, moi, j'ai découvert la littérature à Dostoïevski, mon premier grand choc, c'était Crime et Châtiment. Et dans Crime et Châtiment, tous ces personnages existent, tous ces personnages sont très différents les uns des autres. Lui, quand on voit Dostoïevski, il était quand même, il était antisémite, il était slavophile à l'extrême, il était très très, c'était un être assez petit, et pourtant il donnait une force terrible à ses personnages et même à ceux qui pensaient différemment de lui. Il arrivait à créer tous les types de personnages, des femmes, des hommes, et tous les grands écrivains que j'aime se mettent merveilleusement dans la peau de femmes, dans la peau d'hommes. Quand Marguerite Yourcenar écrit Mémoire d'Adrien, on ne lui dit pas vous êtes dans la peau d'un empereur romain, appropriation culturelle. Enfin, ouais. Voilà, c'est cette liberté-là. Enfin, je pense que la littérature, c'est la liberté absolue. Et faut ça, si on commence à renier ça, ça devient vraiment dangereux, effectivement.
Juste un petit mot. Oui, malheureusement, ça commence. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait un roman jeune adulte il n'y a pas longtemps. Et il y avait deux jeunes femmes, en fait, une blonde et une brune. Et mon éditeur, qui est un mec moderne, il me dit, je connais mon lectorat. En fait, les lecteurs sensibles, peut-être entendu parler de ça, ouais. Si vous parlez d'un homosexuel, vous devez avoir un homosexuel derrière vous qui est votre lecteur sensible, qui va dire, t'as le droit de dire ça, pas ça. Alors là, on revient dans un cauchemar de trucs de censure épouvantable. Mais il me dit, parce que j'ai dit, non, mais l'appropriation culturelle, c'est pas possible. Il me dit, malheureusement, il faut pas qu'on laisse ça, en fait. Parce qu'en fait, dès qu'on a un ongle, on va se faire bouffer le bras. Il me dit, malheureusement, c'est le cas. Et là, par exemple, ton bouquin, tu peux décrire la première fois cette jeune fille est blonde, mais après, tu as le droit de dire une fois la blonde. Parce que si tu dis trois fois la blonde, tu stigmatises les blondes ou elle est débile ou je sais pas quoi. T'es là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ça veut dire que les jeunes, ils sont là. Ah oui, non, mais on doit tout respecter. Donc en fait, on va faire une génération complètement con. Hein.
À côté de ça, les jeunes, ils lisent Captive. Ils lisent de la dark romance ultra.
Je fais un peu de provoque, les jeunes, j'aime les jeunes.
On aime les jeunes quand même.
Non, mais pas. Enfin, moi, les gens. Moi, on m'a accusé d'être homophobe. Mon deuxième roman, d'être homophobe.
Ah oui.
Alors, vous connaissez pas ma vie privée, mais quand même, moi, être accusé d'être homophobe, j'ai trouvé ça tellement absurde, évidemment. Oui. Parce qu'un de mes personnages était pervers et homosexuel. Mais tous mes personnages sont pervers.
Déjà.
Et donc, on pourrait plus dire que je suis hétérophobe, puisque 9 dixièmes de personnages sont des pervers hétérosexuels. Ça, on ne l'a pas encore.
Mais ça part, en fait, ces réflexions-là, en plus, ça part de clichés que les gens ont eux-mêmes. La blonde, si vous écrivez la blonde, et si les gens pensent, les blondes sont bêtes, c'est eux qui pensent ça, en fait. C'est assez délirant.
Il y a quelques blondes, là, quand même.
Bah oui. J'avais une question quand je préparais la rencontre. Je repensais à. J'espère qu'aucune blonde ne va quitter la salle outrée. Je repensais à des scènes de vos livres, parce que là, on est en train de parler aussi de liberté absolue de l'écrivain, mais aussi de responsabilité. C'est-à-dire que, effectivement, c'est quand même mieux si vous n'écrivez pas « Les blondes sont toutes débiles » dans vos livres. On préfère. Moi aussi, je préfère, même si je ne suis pas blonde. Et je repensais à des scènes de vos différents livres que j'adore. Hein. Mais je repensais à cette scène avec le veau, là. Je ne sais pas dans quel livre. De viol zoophile, Glaise. Je repensais à la petite fille qui a le crâne défoncé à coups de club de golf, Elena. Je repensais à ce mec qui se fait brûler les mains sur un barbecue dans Zulu, ou tout, je ne sais plus. J'avais des flashs comme ça dans ma tête, et je me disais, à la croisée des genres, on écrit aussi forcément de la violence, on écrit aussi du noir. On va parfois dans des endroits où on va très loin dans, je parle à la scène d'introduction hein, de Malgré toute ma rage, qui est une scène de massacre d'une jeune fille absolument, absolument terrible. Est-ce qu'on, comment on s'auto... contrôle, je ne dis pas au s'autocensure, mais comment on s'autocontrôle quand on écrit sur d'autres cultures. Est-ce que quand on écrit sur la violence, on a un petit gendarme intérieur qui dit ne va pas jusque-là ou ne dépasse pas telle limite? C'est une question que je me posais sur la croisée des genres. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites cette noirceur existe, je la raconte? Franck Wyss.
Non, juste, vous m'avez donné une idée, c'est de raconter l'histoire d'une vache qu'on tue à coup de club de golf qui serait grillée sur un barbecue.
Mais...
je pense que ce serait intéressant.
Ah, un peu partout aussi.
Et voilà, ça évite de manger de la girafe, ça. Hein.
Ah oui, ça serait l'accompagnement, ça, la girafe. Le coup de la girafe. C'est ce qu'il y a de meilleur, non?
Mais tuer une girafe avec un club de golf, c'est un peu compliqué.
Moi, je veux représenter la violence comme elle est. Quand je la représente graphiquement, je veux que le lecteur ressente la violence de la même façon que mes personnages. Donc, c'est insoutenable, il faut que ça le soit. Si des lecteurs ont une forme de rejet sur cette scène, je trouve ça même sain. Des lecteurs qui me disent « j'ai arrêté de lire votre livre à cette scène-là parce que c'est trop, mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. » Moi, j'ai toujours la scène, quand j'étais voir Funny Games au cinéma en 98, les scènes de violence de ce film sont tellement atroces. En même temps, ils disaient « oui, mais c'est beaucoup moins... » Quand Michael Haneke a réalisé Funny Games, donc les scènes de violence qui sont absolument terribles, froides, pas du tout esthétiques, il disait oui, mais le film dangereux, c'est pas le mien, c'est Tuerné qui montre la violence esthétique, il donne quasiment envie de tuer. Là, je montre la violence dans ce cas-là de plus froid et c'est quelque chose qui doit choquer le lecteur. Moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est gratuit ou pas? Je ne veux absolument pas que cette violence soit gratuite. Il faut que mes scènes de violence soient narrativement indispensables. Voilà. Je déteste la violence gratuite, par contre, puisque moi je raconte des romans sur cette part de violence qu'on a en nous et je veux confronter le lecteur à cette part sombre et à avoir des sentiments ambivalents sur cette violence, il y a quand même des lecteurs qui me disent « mais moi je me pose des questions sur mon propre rapport à la violence parce que j'ai pris plaisir à lire vos scènes alors que je ne devrais pas prendre du plaisir. » Il y a une lectrice qui m'a dit qu'après avoir lu mon livre, elle n'avait pas plus peur du monde, elle avait plus peur de qui elle était. J'adore qu'on me dise ça parce que... voilà, mais voilà, la seule question sur les scènes, c'est ça. Je m'accorde toutes les libertés possibles. Après, je ne veux pas que la scène ne soit pas prise comme je voudrais qu'elle soit prise, mais c'est toujours difficile d'imaginer comment les lecteurs vont réagir par rapport à ça. En tout cas, ce que je veux, c'est... Moi, la seule chose que je veux laisser chez les lecteurs, c'est une morsure. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine, c'est une morsure. Quelque chose qui est par le physique, qui reste et qui marque le lecteur au fer rouge pendant des mois, voire des années.
Enfin, c'est vrai. Hein. Tous les trois, vous m'avez fait ce coup-là. Hein. Marqué pendant des années.
Mais parce que peut-être qu'on est des gens qui nous permettent aussi d'aller loin... là-dessus. Mmh.
Puis c'est une morsure à la conscience aussi. Parce que vous dénoncez plusieurs... je parlais de la violence coloniale. Il y a la violence sexiste, très dénoncée dans votre roman. Il y a la violence empoisonnée de germanopratine. Toutes ces violences-là sont racontées, montrées et dénoncées aussi. C'est pas non plus un roman, un essai.
C'est pas un essai parce que moi, je n'écris pas de thèse sur l'origine du mal, sur la violence. Je serais qui pour le faire? Ce que je veux, c'est représenter les choses et que le lecteur le vive avec le corps, quelque chose avec le ventre, et après se pose des questions sur son ressenti par rapport à ces scènes. Effectivement, pour moi, la violence que je vois dans le monde germanopratant est bien pire que la violence insidieuse comme ça. Et c'est drôle parce que là, j'ai pas eu à pousser vraiment l'imagination quand je parle de toutes les dérives du monde, du petit milieu littéraire parisien. Il y a un personnage dans mon roman qui est un des pires, qui est éditeur, et je me suis retrouvé hier à côté de l'éditeur qui m'inspirait. Un des deux, parce que bon, on va pas. Et j'ai hésité quand même à lui offrir mon livre et le dédicacer en disant. Voilà, mais j'ai pas été jusque-là.
Franck Bouys.
Ouais,
il y a beaucoup de lumière dans vos livres. Je vous fais un peu un faux procès avec le veau.
C'est gentil, ouais. Non, mais c'est très intéressant, ça. Souvent, les lecteurs vous disent, mais pourquoi vous allez aussi loin? Pourquoi ce personnage, le maître de forge, par exemple, cette scène terrible de la forge quand il tue le père? Et quand ce sont des scènes d'amour tendre, etc., c'est plutôt comment vous pouvez arriver à... C'est pas le pourquoi à ce moment-là. C'est normal.
C'est pourquoi c'est... la violence et comment la beauté.
Oui, voilà.
C'est marrant.
Il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas de... Enfin, dans tous les grands livres, il y a une violence. Il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas de danger. S'il n'y a pas une mise en danger de l'auteur et du lecteur aussi. Et tu as tout à fait raison dans ce sens-là. Ensuite, moi, je me pose absolument jamais la question. Je pense plus qu'il faut accepter quand on écrit, plutôt que de prendre... il faut se laisser posséder par le personnage, vraiment. Il faut lui laisser la place. Et quel qu'il soit. Et moi, ce qui me trouble après coup, souvent, c'est que ça ne me demande pas plus d'énergie d'écrire une scène terrifiante, terrible, que d'écrire une scène d'amour. Que d'écrire une scène tendre. C'est la même énergie. C'est ça qui est... c'est-à-dire, vous prêtez votre peau aux personnages, ils sont différents. Ce qui est troublant après, c'est quand vous relisez. C'est-à-dire, vous relisez... D'où ça sort ce truc-là, quoi. Et un signe des temps aussi, c'est le recul. Tu parlais d'émotions, comme ça, les gens qui sont... Pourquoi, tu es une blonde, une brune, tu peux pas répéter. Parce qu'on n'a pas de recul. On n'a plus de recul, on est une société complètement étriquée. Alors que, justement, créer un personnage comme le maître de forge, ou peu importe, il est là pour dénoncer, lui aussi. Parce que je ne suis pas plus le maître de forge que je suis Rose, une gamine de 14 ans, ou le brin d'herbe qui se balade dans le pré, ou l'eau qui coule, etc. Ou la girafe qui essaie d'échapper à Caril. Mais voilà, c'est la force est là. Mais je crois que quand on est romancier, faut surtout pas se poser la question. Et puis il faut surtout pas essayer de faire une thérapie, quoi. Enfin, si on essaie de faire une thérapie en écrivant, faut arrêter tout de suite, à mon avis.
Il y en a qui n'arrêtent pas. Hein.
Ouais. Mais ça fait pas de bonne littérature, ça. Si j'ai une certitude, c'est celle-là.
Caril Ferré, vous avez évolué. La violence là dans votre dernier roman, c'est... Je parlais des mains sur le barbecue. Il y a d'autres scènes, hein, des soupes d'aliments qui sont pires que des girafes dans une prison argentine, c'est ça?
Oui, mais c'est malheureusement, c'est des vraies histoires.
C'est des vraies histoires, ne m'en dites pas plus. J'ai mis du temps à m'en remettre. Mais là, la violence, c'est celle finalement qui est orchestrée, organisée par ces mouvements-là qui tuent des animaux par milliers et qui détruisent complètement des écosystèmes, des espèces, etc., et qui mettent en péril, en fait, l'avenir de l'espèce humaine en faisant ça. Mais quel rapport vous avez-vous à la violence par rapport à ce que viennent de dire, d'ailleurs, vos deux confrères qui disent des choses très intéressantes sur cette révolte et cette écriture?
Au départ, en fait, comme mes livres se passent souvent pendant l'apartheid ou après des dictatures, etc., donc moi, j'essaie de donner la parole aux victimes, et toutes les scènes qui sont violentes, souvent, c'est des scènes que j'ai lues ou qu'on m'a racontées. En fait, le monde se charge suffisamment bien de la violence sans avoir besoin d'en rajouter, quoi. Donc, moi, pareil, je déteste la violence gratuite. Et la scène du barbecue, on va dire, là, en Afrique du Sud, c'est comment décrire la cruauté en Afrique du Sud. Elle existe, en fait, quoi. Et quand j'y étais, effectivement, les gens sont traumatisés par des scènes hyper cruelles, donc, qui paraissent gratuites. Et donc, sa société est impactée. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé cette scène. Avec le braconnage, ce qui est un peu différent, c'est que c'est pas une violence qui est contre des humains, mais en l'occurrence contre des animaux, enfin même si nous sommes aussi des animaux. Mais il y a ce côté, non pas gratuit, parce que c'est le troisième business au monde, dans des 30 milliards de dollars d'animaux sauvages qui sont braconnés dans le monde. En fait, c'est un génocide, en fait. Hein. Enfin, il y a toute une logique. En fait, ce qui est hyper violent, en fait, c'est la logique capitaliste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une bourse phonique à Hong Kong, qui donne des cotes comme la bourse, en fait, quoi. Et les animaux les plus recherchés, notamment par la pharmacopée chinoise, qui est grande culture par ailleurs, mais là, en pharmacopée, ils ont un peu des trous noirs, quoi. Et c'est toujours, c'est toujours les mêmes thèmes. Hein. C'est toujours pour soigner, alors au mieux, c'est pour soigner les maladies, au pire, c'est pour soigner l'impuissance. Et évidemment, la corne de rhinocéros étant le truc le plus phallique qu'on puisse trouver, le rhinocéros est braconné pour sa corne, pour soigner l'impuissance. Et ce qui est vraiment... donc, la corne de rhinocéros, aujourd'hui, vaut plus que de l'or. Hein. Et donc, parce que c'est le capitalisme, c'est plus c'est rare, plus c'est cher. Et donc, quand il reste quelques centaines ou milliers de rhinocéros, bah, du coup, ça fait très cher. Et plus la corne est grande, plus, dans l'imaginaire, tu as l'impression que ta bite, elle va prendre 3 mètres. Et la corne rhinocéros, c'est de la kératine, hein, c'est de l'ongle. Donc souvent, c'est juste, les mecs, rangez-vous les ongles, il ne va pas se passer grand-chose. Hein, Donc on est vraiment à la fois dans l'absurdité du capitalisme et aussi des croyances. Alors il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres à la corne de rhinocéros. Bon, le parallèle, il est OK, il est un peu là. Mais cette violence, elle descend tout. Elle descend jusqu'aux animaux, en fait. Quoi. Parce que, donc aujourd'hui, c'est des mafias, hein, c'est pas des... Le petit noir avec sa sagaie qui va tuer un lion, ça c'était dans les livres de Kessel il y a 1000 ans. Mais aujourd'hui, c'est des mecs c'est des militaires de chez Wagner, je dis Wagner ou autre, hein, c'est des tueurs professionnels en fait, quoi, qui à un moment vont en Tchétchénie, puis après ils vont aller tuer du rhino parce que c'est les mêmes mafias en fait, sauf que là c'est une mafia du braconnage. Et l'espèce, enfin les animaux sauvages, c'est quand même, enfin c'est symbolique pour moi de ce qui arrive sur Terre, en fait. Quoi. Et s'ils n'existent plus, déjà, c'est une part de rêve qui disparaît. Mais c'est une grande part de nous, c'est sûr. Ça, c'est la vraie violence, en fait. Quoi.
C'est ça, la vraie violence.
C'est plus qu'un coup de club sur une vache.
Sur une petite fille. Alors, malheureusement, moi, on m'avait dit 3/4 d'heure. On a dépassé un petit peu. J'aurais encore envie de parler avec vous pendant bien longtemps. On aurait plein de choses à se dire. Mais moi, en plus, j'ai un train à prendre, malheureusement, pour rentrer à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, voir les psychopathes du milieu littéraire.
C'est elle, en fait. Là.
C'est moi qui ai inspiré.
Enfin, pour l'instant, ils sont encore à Brive. Enfin, une partie, en tout cas.
Oui, ils sont là.
Vous pouvez les croiser.
On peut aller à Paris, c'est tranquille, là. Il n'y a personne.
Il n'y a personne, justement. On peut... Prendre tranquille aussi.
Moi, je me disais en vous écoutant qu'en fait, c'est cette croisée des genres, là où on vous trouve et là où vous êtes tous les trois excellents et bons et beaux, c'est quand vous percutez le lecteur. En fait, je crois que c'est ça, en fait, la magie et la force de vos romans, c'est que vous percutez le lecteur autant dans la noirceur que dans la beauté, que dans l'émotion, que dans la puissance des textes. Et moi, c'est ça que j'adore chez vous. C'est pour ça que j'avais très envie de modérer cette rencontre. Que voilà, j'ai dit tout de suite, je les veux et que j'espère que vous tous et toutes ici, vous allez lire ces livres si vous ne les avez pas encore lus, les découvrir. Ne pas vous priver aussi des romans précédents de ces auteurs, parce que vraiment, ce sont des auteurs qui, dans la durée, installent des carrières et qui sont des voix impressionnantes de la littérature française. Blanche ou noire, on s'en fiche, mais vraiment, je vous encourage à les lire. Et moi, je vous remercie beaucoup tous les trois pour ce moment qu'on a passé, et à vous aussi pour votre attention.
Merci à toi, Lise.
Merci.
Merci à vous.
On peut vous retrouver en dédicace maintenant, je crois. Hein, vous pouvez les retrouver tous les trois, bien sûr, en dédicace là sur leur stand.